C'était quand même pas terrible hier soir. Hein.
Non, franchement, c'était nul, on peut le dire.
Pourtant, le Rex, c'est quand même réputé pour être la meilleure boîte techno de Paris.
Ouais, mais...
il y avait zéro ambiance.
Je pense que c'est juste pas notre type d'ambiance, en vrai.
Et pourtant, on adore les soirées techno.
Ouais, c'est vrai. C'est assez étrange. Parce que justement, on avait quand même placé beaucoup d'espoir dans cette boîte et dans l'ambiance qu'on allait pouvoir expérimenter, quoi.
Donc, à ce bizarre. Moment-là, c'est quoi notre type d'ambiance, quoi?
Ouais, mais qu'est-ce qui fait une ambiance, en vrai?
Comment saisir l'ambiance?
Très bonne question. Est-ce qu'on se poserait pas cette question-là dans le prochain podcast?
Je pense que c'est ce qu'on va faire.
Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Vous écoutez Radio Pium et aujourd'hui c'est Maëlle Bouvray et Marine Varem au micro. On va se demander qu'est-ce qu'une ambiance? On va s'interroger autour de cette notion parce que on a constaté récemment que y avait des moments où l'ambiance pouvait être pesante. Et d'autres moments où on se disait « mais waouh, cette ambiance est géniale » et on ne savait pas forcément l'expliquer, il y avait un côté presque mystique et surprenant. Et on s'est dit « c'est une notion ultra intéressante à analyser philosophiquement, cette notion d'ambiance qu'on n'a jamais vraiment traitée en cours et au cours de nos parcours philosophiques dans nos études. » Donc ouais, voilà, aujourd'hui on va s'interroger autour de ça et vous allez nous accompagner dans cette réflexion. Donc c'est parti.
Il conviendrait peut-être aussi de parler de l'étymologie du mot « ambiance ». Qui vient du latin, donc ambi et ire. Ambi, ça veut dire ce qui est autour, et ire, c'est le verbe aller en latin. Donc l'ambiance, c'est littéralement ce qui nous enveloppe quand on va quelque part. Mais on constate que c'est pas quelque chose qui nous enveloppe et qui nous suit partout. C'est nous qui traversons différentes ambiances selon les endroits où on va. Voilà, donc ça, c'est le premier constat. Et il semblerait aussi que l'ambiance soit un phénomène assez complexe et invisible. Donc Marianne, t'as parlé de mystique, et on parle souvent de l'âme d'un lieu quand on veut parler d'ambiance. Et l'ambiance apparaît donc comme un phénomène immatériel. On est d'accord?
Totalement. Donc il y aura peut-être même des questionnements métaphysiques autour de cette question d'ambiance et on va voir jusqu'où ça va nous mener. En tout cas, soyez prêts à nous accompagner dans cette réflexion philosophique profonde.
Et on pourrait peut-être commencer par se poser la question, je pense, la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise ambiance? Et par la suite, on pourra se poser d'autres questions, comme est-ce que l'ambiance est quelque chose de matériel ou d'immatériel? Est-ce que c'est quelque chose de constant ou d'inconstant?
Exactement. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement, je pense. Et on va se demander comment on peut définir une bonne ou une mauvaise ambiance? Qu'est-ce qui fait concrètement une bonne ou une mauvaise ambiance? Et d'abord, en fait, on pourrait se dire que tout vient de la personne, du sujet. Et qu'en fait... l'ambiance est forcément reliée au subjectif, relève du domaine du subjectif, parce que cela dépend du jugement d'une personne. C'est la personne qui va dire cette ambiance est bonne ou cette ambiance est mauvaise. Et donc, finalement, ça serait peut-être relatif au ressenti personnel. Et ce serait peut-être même ce ressenti personnel qui constitue l'ambiance en elle-même. De ce fait, on peut soulever cette question, l'ambiance n'existerait-elle qu'à l'intérieur de nous, qu'en nous? Alors, chacun définirait sa propre ambiance en fonction du lieu, de l'environnement où il se trouve. Et alors, même deux personnes, dans une même pièce, dans un même lieu, pourraient respectivement penser que, par exemple, une maison est glauque, et l'autre personne penserait que cette maison est très accueillante. Ou alors que cette soirée est animée et géniale, et une autre personne penserait que l'ambiance est plombante et mortifère. Et donc, en fait, il y a vraiment... La question qu'on va se poser ici, c'est vraiment, est-ce que c'est un concept complètement subjectif. Et est-ce que c'est vraiment la personne et la perception de la personne qui, finalement, produisent l'ambiance? L'ambiance et la perception que l'on en a se confondraient alors et s'appuieraient, dépendraient des goûts et des ressentis de chacun. Et donc d'abord, on va se pencher sur le fait qu'il semblerait que l'ambiance, c'est d'abord quelque chose qui est reçu par l'individu. Et qu'en fait, elle dépend de la manière dont on perçoit ce qui nous entoure. Et elle dépend de ce que notre environnement nous fait ressentir particulièrement. Parce qu'en vrai, bah, quand on rentre dans une pièce, quand on se promène dans une ville, quand on va dans une soirée, il y a une stimulation des cinq sens en fait. Automatiquement, on va être stimulé au niveau olfactif. Par exemple, moi je pense toujours au moment où je vais dans le métro, les odeurs nauséabondes me stimulent un petit peu trop. Et ça crée une ambiance, c'est-à-dire que moi c'est pas un lieu que j'apprécie particulièrement, le métro par exemple. Notamment parce que voilà, il y a cette surstimulation olfactive, visuelle aussi, lumineuse. Il y a aussi beaucoup de bruit. Et donc en fait, j'ai l'impression que l'ambiance et la manière, donc ça va être la manière dont on ressent et la manière dont on se sent dans son lieu, dans ce lieu, en fonction bien des sens auxquels ce lieu fait appel. Et donc finalement, on pourrait dire que c'est purement subjectif parce que chaque personne recevra ses stimuli des sens différemment. C'est-à-dire que peut-être des personnes qui supportent beaucoup mieux l'odeur du métro, il y a peut-être même des gens qui apprécient l'odeur du métro.
J'en suis pas sûre
non plus. Bon, après, j'ai l'impression que les Parisiens ont une relation particulière à Paris, que certains trucs, les gens qui sont nés à Paris apprécient le métro. Bon,
je pense que c'est plus une question d'habitude. Ouais. Et après, quand on aime Paris dans son entièreté, quoi.
Voilà, mais tout ça pour dire que ça reste quand même assez subjectif. Et donc, en fait, une personne bah voilà, qui est beaucoup plus sensible aux odeurs va très très mal vivre la traversée du métro, quoi. Et donc, en fait, le ressenti semble ici central pour déterminer si une ambiance est bonne ou mauvaise. Et par exemple, moi, j'ai l'exemple de quand j'étais petite, je détestais les odeurs. Donc, encore une fois, on est autour des odeurs. Les odeurs de cigarettes, c'était un truc qui me dérangeait énormément. Et je me rappelle d'une fois où on allait au restaurant avec mes parents et on était en terrasse et on était entouré de personnes qui fumaient. Et j'ai un très 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 mauvais souvenir de ce restaurant. J'ai l'impression que l'ambiance était terrible et très pesante parce que j'ai l'impression d'être entourée de fumée. Il y avait un peu un truc vraiment pesant. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, après, en sortant du restaurant, que j'avais détesté l'atmosphère, l'ambiance de ce restaurant. Alors je sais pas si j'avais utilisé le mot ambiance en lui-même, mais c'est un truc qui m'a vraiment marquée, quoi. Et donc, on peut dire qu'en fait, l'ambiance, ça apparaît comme l'atmosphère qui environne une personne. Et donc, ça peut être une atmosphère qui est tant matérielle que morale. C'est-à-dire que c'est relatif donc, au ressenti, comme on vient de le dire. Mais ça peut aussi être relatif à l'environnement lui-même et ce que l'environnement impose à l'individu. Voilà. Et donc, on pourrait aussi dire que l'ambiance est forgée par l'individu au-delà du fait qu'elle est reçue par l'individu. D'une certaine manière, elle est aussi forgée par lui. Parce que, en fait, il y a cette atmosphère morale que l'individu va constituer. En fait, on pourrait dire que l'ambiance dépend des états d'âme de l'individu, en quelque sorte. On peut donner l'exemple, par exemple, d'une visite au musée. En fait, si on va visiter un musée et qu'on est déjà d'humeur mélancolique, l'ambiance, si, admettons qu'il y a quelques œuvres qui soient un petit peu déprimantes, entre guillemets, qui soient un peu. Des œuvres un peu. Triste, et bah tout de suite, je pense qu'il y a une ambiance mélancolique qui va s'installer, mais au plus profond de nous, en fait, et on va recevoir, en fait, ce qui se passe dans cet environnement et les œuvres qui se présentent à nous comme quelque chose de vraiment mélancolique. Et donc, en ça, l'ambiance va être on va forger l'ambiance conformément à ce qui se passe déjà en nous à l'origine. Alors que peut-être d'autres personnes à côté de nous qui vont se promener dans ce musée, bien, vont voir des choses beaucoup plus lumineuses dans ces tableaux, vont voir peut-être des signes d'espoir dans des tableaux pourtant qui sont mélancoliques. Voilà, ou alors qui ne vont pas du tout interpréter ces tableaux de la même manière et ne verront pas du tout la tristesse qu'on peut percevoir, par exemple. Donc voilà, on voit que quand même, il y a un rôle que le sujet joue véritablement dans la constitution de l'ambiance. Et moi, j'ai des exemples d'artistes, notamment, qui me viennent en tête. Et je pense particulièrement... au fait qu'il y a beaucoup d'artistes, on a l'impression, en fait, quand on regarde leurs œuvres, que ce soit des œuvres picturales, donc des tableaux, ou même quand on lit des romans, etc., on a l'impression qu'ils forgent le paysage et l'environnement qui les entoure à l'image de leur psyché, de ce qui se passe dans leur tête. Et en fait, ça me fait penser, ouais, par exemple, à La Nuit étoilée de Van Gogh. Donc il y a deux nuits étoilées, mais la plus connue, celle où il y a des sortes de tourbillons dans le ciel, etc. À chaque fois que je regarde ce tableau, je me dis, mais... Enfin, je suis impressionnée parce que je trouve qu'on voit les tourments en fait, de Van Gogh dans le tableau. Et j'ai l'impression qu'en fait, il forge complètement l'environnement à l'image de ce qui se passe en lui, de ce qui se passe dans sa psyché. Et donc, il y a vraiment une capacité à constituer une ambiance dans ce tableau et donc dans l'environnement qu'il représente, grâce à sa psyché et à travers ses tourments, en fait. Et donc, vraiment, de ce ressenti et de cette réception, peut-être, de l'ambiance, comme on disait tout à l'heure, la manière dont il reçoit l'environnement, quand il observe cette nuit étoilée, émane quelque chose, enfin, il forge, du coup, quelque chose de nouveau, et il forge une nouvelle ambiance qui mêle, en fait, ce qu'il reçoit de l'environnement et ce qu'il ressent, justement, bah, ce qu'il ressent en fonction de cette réception et ce qu'il ressent quand il contemple cet environnement. Et donc, en soi, il forge l'ambiance qui l'entoure. Et donc voilà, c'est assez intéressant et ça me fait penser aussi à la position idéaliste en philosophie qui consiste à penser que toute réalité se ramène aux déterminations de l'esprit. Et donc en gros, bah, c'est l'esprit de l'individu, c'est sa vision subjective ou encore bah, les expériences sensibles qu'il fait du monde qui forge ce monde. Et donc qui lui confère une sorte de réalité, un sens. Et notamment, on peut se pencher sur la conception de Kant dans les diverses critiques, que ce soit la critique de la raison pure ou la critique de la faculté de juger, qui définit la conscience comme ayant une action constitutive. En tout cas, en fait, voilà, il y a une action constitutive de la conscience transcendantale sur la matière sensible. Ça veut dire que, en fait, avant que la conscience perçoive l'environnement, eh bien, il y a une sorte de chaos sensible, en fait. Le monde n'est pas monde, c'est vraiment un chaos. Et en fait, c'est l'action de la conscience, la perception de la personne la perception qu'elle a du monde qui va justement créer les phénomènes et donc créer en fait les expériences sensibles, donc ce qui se présente à nos sens. Et donc en soi, on peut le relier à l'ambiance dans la mesure où on se dit, bah voilà, c'est l'action de la conscience, c'est la manière dont la conscience va percevoir, recevoir ce qui se présente à elle dans le monde qui va constituer l'ambiance en elle-même, l'ambiance d'un lieu, l'ambiance d'un environnement quoi, en général. Et donc voilà, on peut relier ça à Kant, même si bien sûr là ici j'étends le propos de Kant et je le déforme un peu, mais je trouvais ça assez intéressant de s'intéresser à la position idéaliste que peut adopter Kant. Et donc au-delà donc du fait que le sujet va forger l'ambiance morale, l'atmosphère morale, comme on le disait, donc ça va être conforme à ce qui se passe en lui, etc. On pourrait dire aussi qu'il y a une matérialité dans la manière dont le sujet va forger l'ambiance, et on pourrait se dire que ouais, en fait, il va aussi forger l'ambiance du lieu dans lequel il se trouve. Enfin, la personne va forger l'ambiance du lieu dans lequel elle se trouve. Mais physiquement, en fait. C'est-à-dire qu'elle va modifier ce qui l'entoure purement matériellement. Et donc, on pourrait dire que, voilà, dans ce cas-là, l'individu peut littéralement modifier l'ambiance d'un lieu de par son action physique. Et de ce fait, il est acteur et créateur de l'ambiance et d'une certaine atmosphère. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, Maëlle, de l'émission Des Échos.
Bien sûr.
L'émission de Valérie Damido. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment... J'ai pensé à ça directement quand je réfléchissais à ce concept. Et je me suis dit, mais en fait, Valérie Damido, quand elle va dans une maison, quand elle aménage cette maison, et ben en fait elle modifie l'ambiance complètement, elle crée une nouvelle ambiance et c'est par son action subjective qu'elle le fait. Et j'ai l'exemple, enfin je sais pas si tu te rappelles, il y a un épisode qui m'a marqué où elle va dans la chambre d'un je crois que c'est d'un petit garçon et qui est fan de New York, etc.
Ah, je l'ai vu.
Voilà. Et en fait donc lui il est pas du tout au courant qu'elle va modifier sa chambre. Et en fait, il met du papier peint New York, elle met un lit en forme de taxi jaune. Et donc, elle modifie complètement l'ambiance. On se croirait vraiment à New York, quoi. Et l'enfant arrive et il est subjugué, quoi. Parce qu'en fait, cette action matérielle, elle fait tout. Elle forge absolument tout. Elle change l'ambiance. Et ça crée un climat dans lequel l'enfant va se sentir très bien, en fait. Et ça va être son environnement, son atmosphère et l'ambiance qui lui correspond, en fait. Et donc ça, c'est par l'action purement subjective. On va dire que c'est vraiment, voilà, le sujet à Valérie Damido, la super-héroïne Valérie Damido qui arrive à recréer, à créer une ambiance toute nouvelle, quoi. Donc c'est super intéressant de voir que concrètement, on peut vraiment agir dessus aussi, sur cette ambiance. Voilà.
Moi, j'aimerais interagir avec toi par rapport à ce que tu viens de dire déjà, mais aussi sur ce que tu as dit par rapport au musée. Donc, dans les musées, ce sont les artistes qui imposent une ambiance à travers leurs tableaux, mais tu as aussi parlé du fait que bah, le sujet, en fonction de son état d'âme, va percevoir le tableau d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Je vais d'abord parler du musée, et après, je parlerai de Valérie D'Amido. Au musée, certes, tu arrives avec un certain état d'esprit, mais je suis quand même assez frappée à chaque fois par la manière dont une exposition peut te changer aussi. T'arrives quand même avec un certain état d'esprit, tu ressors avec un autre. Et dans les musées d'art contemporain, il y a des installations, des salles, tu rentres dedans et par contre, là, ça s'impose à toi.
Ouais, c'est vrai.
Il y a le point de vue inverse. Certes, l'artiste fait cette installation, t'impose une certaine ambiance et toi, tu l'accueilles. Quoi. Et t'es complètement passif face à ça. Quand t'en ressors, t'es un petit peu bouleversé. Et pour ce qui est de Valérie D'Amido, certes, c'est son action subjective sur la chambre du petit garçon qui... crée l'ambiance, mais par contre, le petit garçon, il arrive et il l'accueille aussi pleinement.
Complètement, ouais.
Donc, je pense que dans le deuxième temps de ce podcast, moi, je vais défendre un peu la position inverse, qui consiste à dire que l'ambiance est quand même assez généralement quelque chose qui s'impose à nous. Même si on peut parler de l'action de la conscience sur le monde, etc., il y a quand même un moment où, quand on en revient à l'expérience, on se sent happé et submergé par cette ambiance.
Il y a quelque chose de presque transcendant dans l'ambiance, quelque chose qui nous dépasse. Peut-être.
Qui nous dépasse, ouais.
Et c'est peut-être ce mystique auquel je faisais référence dans l'introduction aussi. T'as raison, peut-être que j'ai poussé le concept un petit peu loin.
Mais c'est une dimension très importante de l'ambiance.
Puis c'est le principe de la philo.
Voilà, on se contredit tout le temps.
Et donc, on va passer à la deuxième partie. Maëlle, parle-nous de l'effet des lieux sur l'ambiance et de en quoi ça peut finalement avoir un impact sur l'ambiance et en quoi l'ambiance peut s'imposer à nous.
Alors, donc là, il y a un peu un changement de position philosophique, j'ai envie de dire, parce qu'on là, on passe de la conscience au monde, au lieu, en tant que tel. Et je pense qu'il serait intéressant, pour commencer, de parler de l'étendue de l'ambiance. Dans le sens commun, on parle souvent de l'âme du lieu. T'as démontré qu'en fait, l'ambiance était quand même quelque chose d'assez matériel, et je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est qu'il y a quand même ce paradoxe de... à la fois, on parle de l'âme du lieu, donc d'un phénomène invisible, insaisissable, un peu mystique, mais l'ambiance, elle a des frontières physiques, elle a des limites, et il n'y a pas l'ambiance de l'univers. Il y a l'ambiance d'un quartier, il y a l'ambiance d'un arrondissement à la limite, ou d'une petite ville, mais je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et donc là, on passe à une autre échelle, en fait. Je pense que la conscience, le sujet, peut être constitutif d'une certaine ambiance dans un appartement, dans un petit bar ou dans une salle, dans un musée à la limite. Mais quand il s'agit d'un quartier, d'un monument, là, c'est plus du tout pareil. Donc, l'échelle s'agrandit. Et parce que le lieu est plus vaste et qu'il y a plus de monde, l'impact de l'individu est plus faible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, par rapport au fait que l'ambiance a une étendue, un espace délimité, c'est lié au fait que l'ambiance, c'est quand même quelque chose d'homogène. Et que l'ambiance forme un tout, constitué d'éléments homogènes et cohérents entre eux pour que ça forme ce tout, qu'on ressent, nous, de manière très empirique. T'as parlé des cinq sens, par exemple. Et en fait, si nos stimuli ne sont pas cohérents les uns avec les autres, il y a un problème. Si tu rentres dans un resto chic et que ça sent la poubelle, c'est pas cohérent. Et là, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, tu sors. Alors que si ça sent bon, ça sent un petit peu, je sais pas, je vais pas trop dans les restos chics, mais s'il y a une petite musique un peu jazzy, là tu sens que c'est une ambiance très cohérente et tu vas vouloir y rester, tu vas vouloir t'y attarder. Mais là, je parlais pas de restaurant, je parlais de lieux plus vastes à la base. Donc quand on parle de quartier, de petite ville, là il y a un ensemble d'éléments homogènes. Je pense que pour illustrer mon propos, il faudrait que je prenne des exemples. Donc là, je parle de l'ambiance la plus générale possible dans mes exemples. En petite ville moyenne, on pourrait par exemple parler de Quimper, qui est une petite ville bretonne.
Moyenne.
Que j'apprécie. Très, moyenne. Très moyenne, voilà. Mais disons qu'il y a une cohérence à Quimper. Même, il n'y a pas un grand écart entre le bourg principal avec l'église et les quartiers résidentiels à côté. Déjà parce que c'est grosso modo la même catégorie sociale. Il n'y a pas de grands écarts. Et ensuite, il y a quand même cette authenticité du bâti, cette proximité avec la mer, cette odeur de crêpes. Et la pudeur bretonne, tout ça, ça fait...
Surtout les crêpes.
Surtout les crêpes. Et en fait, tous ces éléments qui sont très cohérents les uns avec les autres forment cette espèce de langueur, de douceur de vivre, de chaleureux individualisme qui caractérise Quimper. On a un problème de travaux. Voilà. Mais je pense qu'on va passer outre.
C'est parti, c'est un happening.
C'est ça. Je pense qu'on va passer outre dans l'épisode. Donc je viens de prendre l'exemple de Quimper, qui est une ville moyenne dans laquelle on peut trouver une ambiance assez homogène. On ne peut pas retrouver ça à Paris. Paris, ce n'est pas une ville homogène dans ce sens-là. Paris, c'est constitué de divers arrondissements. Et je pense que c'est la limite des ambiances à Paris. C'est l'avis que j'en ai, c'est que quand on traverse Paris de long en large, on traverse différentes ambiances, c'est quand même souvent lié aux arrondissements. Il y a une différence assez majeure entre le 5e arrondissement, son effervescence étudiante, la fréquentation des cafés, des librairies, une espèce de flânage intellectuel, et le 15e arrondissement, où Marianne et moi habitons, qui est quand même assez résidentiel. Il y a des petites rues commerçantes, mais ça reste grosso modo assez calme. Il y a beaucoup d'immeubles et c'est pas du tout pareil. Donc maintenant, je vais vous parler de l'identité du lieu qui, d'après moi, dépend de deux choses. D'abord, sa disposition, son architecture, son esthétique, et puis de son passé, de ses événements qui le précèdent et de son histoire. Il semblerait qu'il y ait une influence réciproque entre la disposition et le passé du lieu, à la manière du fond et de la forme. Il semblerait que les événements se traduisent dans la matière de façon à façonner le lieu et que ces événements continuent perpétuellement à le modifier. Par exemple, à la Sorbonne, il y a eu des blocus il y a 2 ans. Maintenant, il y a toute une partie de la Sorbonne qui a été refaite. Donc le lieu se façonne comme ça au fur et à mesure. Il semblerait donc que chaque lieu ait une identité et que la population du lieu s'y adapte. Il y a une sociologie des lieux qui se fait à partir du passé et de la disposition du lieu. Je vais donner des exemples pour que ce soit quand même un peu plus concret. Et moi, j'aime bien l'exemple de l'université. Donc, il y a d'abord les universités un peu élitistes, historiques européennes, qui traduisent un certain prestige. Parmi elles, la Sorbonne, Oxford, Coimbra. Et on voit que dans ces universités-là, les gens viennent avec cette conscience du prestige. Et quand tu rentres dans la cour de la fac, il y a quand même une multitude de codes qui sont adoptés. Il y a une façon de s'habiller, de parler, même de fumer, d'échanger, de circuler. Et c'est quand même très calme. Donc nous, on va prendre l'exemple de la Sorbonne parce que c'est là-bas qu'on étudie. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a quand même... Tout est très codifié. Et c'est pour ça que je parlais de sociologie des lieux et qu'on s'adaptait.
Ouais, et puis tu m'avais dit en off, imagine si quelqu'un se ramenait avec une enceinte et écoutait du SCH en plein milieu de la cour de la Sorbonne. C'est sûr que ça ferait vraiment bizarre. Et puis, déjà... Je pense que ce serait possible que la personne se fasse virer carrément du lieu, déjà. Et puis en plus, la personne serait vraiment jugée par absolument l'entièreté des personnes qui sont présentes dans le lieu, quoi.
Bah ça, j'en suis pas sûre. Disons que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura un décalage sur le moment. Tout le monde se tournera vers la personne. Après, ça se trouve, il peut démarrer un mouvement.
Ouais.
Mais toujours est-il qu'il y aura un gros contraste au début. Après, vu le nombre de vigiles à la Sorbonne, c'est à peu près sûr qu'il serait viré.
Mais c'est une question en fait même de respect du lieu, quoi. Genre là, je pense que c'est que le lieu ça impose une forme de respect et ça apparaît comme de l'irrespect de faire quelque chose qui sort du moule, quoi, et qui le fait de chahuter dans la cour de la Sorbonne, c'est
ça. Et on peut parler de l'autorité d'une certaine monumentalité. C'est un peu jargonnant de dire ça, mais la Sorbonne, c'est un monument historique et qui impose un respect de par son prestige, son passé, son architecture, qui traduit ce passé. La présence de Richelieu est dans la cour. Il y a une chapelle avec sa tombe dedans, donc on ne peut pas écouter du SCH devant. Enfin, dans ton casque, si tu veux, mais on ne parle pas d'SCH parce qu'on ne l'aime pas.
D'ailleurs. J'adore SCH.
Voilà, ce n'est pas la question. Mais les lieux produisent des codes de par leur identité, leur passé, leur disposition. On a pris l'exemple des universités un peu élitistes. Et à l'inverse, dans les universités un peu plus inclusives et engagées, on pourrait citer Nanterre, Lyon 2, Rennes 2 parmi elles, qui sont connues pour leur engagement, tout simplement. Il y a au contraire un rejet de ces codes et une grande liberté dans les campus, Tolbiac aussi à Paris. Mais là-bas, paradoxalement, le rejet des codes devient un code. Donc il semblerait qu'il y ait une certaine autorité du monument, qu'il soit prestigieux ou non. Dans tous les cas, quand on arrive dans certains lieux, qui doivent être vastes pour que ça se produise. On subit cette ambiance, enfin on la subit ou on l'accueille, ça dépend. Mais toujours est-il qu'il y a cette autorité sur nous et qu'à ce moment-là, l'individu en tant que tel n'a plus d'impact. Il peut avoir un impact, mais il serait rejeté, comme tu l'as dit. Et alors, il n'est plus créateur de l'ambiance. On ne va pas créer l'ambiance de la Sorbonne en rentrant dans la Sorbonne. Mais toujours est-il que les gens jouent un rôle dans la constitution de l'identité du lieu. Parce que là, j'ai parlé de l'influence réciproque entre les événements et la disposition du lieu, mais il faut des gens pour mener ces événements-là. Et en fait, le passé traduit dans la matière implique des figures historiques, en tout cas des personnes pour mener ces événements-là. Il semblerait que les gens continuent en fait de mener ce perpétuel mouvement de création du lieu.
Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand je t'ai dit, quand j'ai dit que la personne, si une personne mettait du SCH en plein milieu de la cour, il serait automatiquement jugé par tout le monde. T'as quand même souligné le fait que c'était aussi possible qu'il engendre un mouvement de foule et que les gens le suivent. Et en effet, même si ce bâtiment et ce monument imposent une certaine ambiance et un certain respect, il y a quand même la possibilité de tout changer en fait. Il y a la possibilité de créer une nouvelle ambiance quoi, justement grâce au mouvement du groupe, grâce au groupe en lui-même.
C'est ça, mais à ce moment-là, il y a une distinction. D'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est que la Sorbonne restera toujours la Sorbonne et que ça paraît juste être un petit événement contingent, mais qui ne viendra jamais chambouler son identité en que lieu. Le lendemain, l'ambiance habituelle de la Sorbonne sera là. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que pour qu'il y ait ce mouvement, tu as parlé de mouvement de foule, enfin j'en ai parlé et tu l'as repris, à ce moment-là, l'individu n'a pas d'impact tant qu'il ne s'inscrit pas dans un collectif. Donc on est d'accord que les ambiances s'imposent à nous, mais les gens ont un rôle à jouer dans la constitution de l'ambiance, mais on ne peut plus penser à l'échelle de l'individu.
Alors du coup, c'est super intéressant comme point de vue, et je pense que du coup pour compléter ce que tu viens de dire, on ne peut plus penser à l'échelle de l'individu si on pense à l'échelle de la monumentalité, si on pense à l'échelle vraiment de l'ambiance d'un lieu en elle-même, et pas à l'échelle justement de celle qu'on avait prise au début, de on pense à une ambiance personnelle, à une ambiance qui est ressentie. Là, on est vraiment sur une ambiance qui est étendue, en fait. Et donc, c'est ça la différence, c'est que maintenant, on parle de l'étendue de l'ambiance. Et c'est ça qui nous permet de faire un pont vers notre troisième partie, en fait, finalement. Et vers l'idée que, en fait, il y a aussi une forme de subjectivité collective qui forme l'ambiance d'un lieu, d'un environnement, etc. Et que oui, en effet, l'individu en lui-même ne peut pas avoir une action globalisante et étendue sur l'ambiance d'un lieu, d'un environnement qui a une certaine étendue, justement.
Et maintenant, c'est le moment d'une petite pause musicale au cours de laquelle nous écouterons The Adults Are Talking de Strokes.
Then you did something wrong. You said it was great, and now you don't know how you could.
On espère que vous avez apprécié ce morceau, que nous, en tout cas, on apprécie particulièrement avec Maël, parce que bah, clairement, il nous ambiance, quoi. Il nous ambiance et ben, on espère que ça a eu le même effet sur vous.
C'est ça, en fait, on a pris la musique qu'on aimait, nous, particulièrement, parce qu'au final, la musique, c'est une constante de l'ambiance. C'est quand même beaucoup ce qui ambiance, et chacun a un petit peu ses goûts par rapport à ça. Voilà.
Ouais. Et je pense que quand on s'imagine une bonne ambiance, on pense souvent à l'ambiance musicale d'un lieu. Et donc forcément, bah, on avait envie que notre podcast ait une bonne ambiance. Donc on a mis la musique qui nous parlait le plus.
Donc d'après toi, Marianne, quelle serait la forme la plus évidente que prendrait cette subjectivité collective, constitutive de l'ambiance ?
Bah pour moi, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, ça s'exprime à travers le groupe. Et en effet, c'est en fait au sein d'un groupe, en fait l'ambiance, la notion d'ambiance en elle-même, c'est censé être quelque chose de constant et d'homogène en fait. Ça exige une certaine constance et homogénéité, notamment parce qu'on relie souvent la notion d'ambiance à la notion d'atmosphère. Et en fait, quand on pense à l'atmosphère, on pense à quelque chose de un peu de planant, de général et de large, d'étendu. Et donc voilà, en ça, ça nécessite une certaine homogénéité. Et du coup, pour qu'il y ait une ambiance qui puisse être créée, il faut que ce soit créé par plusieurs individus, que ça fasse un groupe, que les individus fassent corps et créent un groupe homogène. Et donc, ça me fait penser paradoxalement à l'expression « casser l'ambiance ». Et je pense que c'est intéressant de partir de cette expression-là, justement. Quand on dit que quelqu'un casse l'ambiance, en fait, c'est généralement quelqu'un qui va arriver dans un endroit, dans un lieu où il y a un groupe et qui va être en total décalage en fait, avec l'ambiance qui siège dans ce lieu et qui du coup ouais, va faire défaut à l'ambiance qui existait à l'origine et la met même en péril. En fait. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même la nécessité d'une certaine homogénéité et d'un partage d'une ambiance collective, mais que du coup, à la fois, en fait, cette ambiance, elle est aussi très fragile et peut être remise en question par un seul individu. Et c'est un peu ça le paradoxe de l'ambiance, je pense. Et moi, ça me fait penser, par exemple, à la série Euphoria. Bon, en vrai, on a plein d'exemples dans plein de films différents, dans plein de séries différentes, où on a un personnage, par exemple, qui est dans une soirée, et il y a une ambiance particulière, et il arrive et il est complètement en décalage, et donc il va casser l'ambiance d'une manière ou d'une autre. Soit en faisant une révélation choc et alors que c'était festif, tout d'un coup c'est dramatique et tout change, ou alors le personnage est en décalage parce qu'il n'arrive pas à s'amuser alors que tout le monde s'amuse. Il y a plein de manières justement de faire défaut à l'ambiance. Et dans la série Euphoria, par exemple, le personnage de Roux, qui est le personnage principal, casse souvent l'ambiance, honnêtement. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas forcément très aimée, alors pourtant c'est le protagoniste, parce que bon, c'est une histoire très compliquée. Le personnage de Roux a des addictions et donc elle n'est pas toujours dans son état de conscience normal, rarement même. Et en fait, ça arrive, il y a plein de scènes où on la retrouve par exemple au lycée et elle va arriver et puis elle va faire des grandes phrases, qu'elle va casser l'ambiance qu'il y a dans la classe, qui est l'ambiance studieuse, etc. Et voilà, parce qu'elle est dans un état second, ça va être complètement différent. Ou elle se retrouve en famille et pareil, il y a une ambiance un peu harmonieuse, un repas de famille, et elle arrive et elle est complètement chaotique et ça... Bah en fait, tout le monde tombe dans une sorte de tristesse profonde et de désespoir parce que tout le monde la voit en fait dans cet état
complètement altéré. C'est son état de conscience altéré qui l'empêche de s'intégrer dans un groupe. Elle n'est jamais dans un groupe.
Exactement. Exactement. Et du coup, elle n'est jamais dans un groupe et du coup, en fait, elle n'arrive jamais à se conformer à l'ambiance. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des sortes d'injonctions en fait, qui accompagnent l'ambiance. Il y a quand même quelque chose, comme tu disais, le lieu nous impose quelque chose, l'ambiance d'un lieu s'impose à nous, mais l'ambiance d'un groupe aussi s'impose à nous. Et des fois, ça paraît même, en fait, pour certaines personnes, impossible de se conformer à cette ambiance-là. Et donc, en fait, on voit que, ouais, pour qu'une ambiance puisse subsister, il faut qu'il y ait une homogénéité. Et c'est vraiment une condition nécessaire pour que l'ambiance subsiste et pour qu'elle soit, qu'elle soit bonne aussi. C'est ce qu'on revient, en fait, à la discussion du début. C'est une bonne ambiance, c'est pas seulement... Si quelqu'un dit c'est une bonne ambiance, c'est en fait si vraiment il y a une sorte d'harmonie et si tout le monde est sur la même longueur d'onde et voilà quoi, il y a vraiment une dimension collective très très importante. Et donc ça induit aussi l'idée que c'est la manière dont le groupe va se conformer à un lieu. Et c'est en ça qu'on rapporte encore une fois l'ambiance et la subjectivité collective à l'ambiance du lieu et en quoi les deux en fait sont interdépendants finalement. C'est que à la fois le lieu va nous imposer son ambiance, mais à la fois le groupe aussi peut décider ou non de se conformer à l'ambiance qui est imposée et peut y contribuer, du coup contribuer à forger cette ambiance du lieu. Et moi ça me fait penser par exemple au silence qui peut siéger dans un musée ou dans une bibliothèque, etc. On va dire que c'est une sorte de règle tacite qui est en filigrane en fait de bah, on est dans une bibliothèque, on se tait, c'est une ambiance studieuse et c'est comme ça. Et en fait, c'est le groupe, c'est les gens qui collectivement, quand ils rentrent dans ce lieu, décident de respecter cette ambiance-là. Donc en soi, c'est une ambiance qui s'impose à eux, mais c'est aussi eux qui la forgent collectivement. Et s'il y a une personne qui se met à crier au milieu de la bibliothèque, bah, tout est ruiné en fait. Et ça devient complètement absurde.
Oui, d'autant plus que les bibliothèques, la plupart, bon, peut-être pas forcément à Paris, mais sont pas des lieux qui ont un passé particulier, qui amènent les gens à y aller.
Exactement.
C'est des lieux, voilà, les bibliothèques, les musées, quand c'est des structures assez modernes, bah, t'as raison, c'est rien qu'un accord tacite qui conduit le comportement des gens. Et en fait, on voit que l'ambiance est quelque chose de très sociologique.
Ouais. Et il y a sûrement aussi une nécessité, du coup. Une nécessité de l'ambiance, une nécessité de créer une homogénéité, quoi.
Oui, pour que chacun puisse se retrouver dans la société.
Exactement.
Parce que s'il n'y a pas un lieu pour toi, où est-ce que tu vas ?
Exactement.
Heureusement qu'il y a des différences d'ambiance.
En fait, c'est vraiment nécessaire, justement, de pouvoir retrouver des lieux où on va avoir une ambiance studieuse, où on va pouvoir se poser, réfléchir calmement. Des lieux où ça sera festif et où, justement, on va, à l'inverse, se libérer de plein d'autres choses et justement sortir du silence. Et plein d'autres lieux, en dehors des lieux festifs et des lieux silencieux, il y a plein de lieux intermédiaires. Et ouais, du coup, en fait, finalement, on voit qu'il y a une nécessité de l'ambiance et une nécessité de la collectivité de l'ambiance, de la subjectivité collective, enfin de l'action, qu'il y ait une action collective, en fait, pour créer une forme d'ambiance, quoi.
C'est ça, et puis il y a quand même la question de la familiarité qui revient. Parce que quand tu t'intègres dans un groupe, c'est que tu t'entends bien avec les gens, que tu te sens bien avec, et puis alors il va y avoir des lieux associés à ce groupe. Et tout ça, ça crée une sphère très rassurante. Et quand t'es pas à l'aise avec un groupe, que t'arrives pas à te faire à ce groupe, il n'y a pas de familiarité. Ça se casse direct, tu te sens pas bien, t'es pas toi-même, etc. Et c'est ce qu'on disait par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait des lieux pour tout le monde, il faut qu'il y ait des ambiances pour tout le monde, sinon tu te sens jamais chez toi.
Exactement.
Donc l'ambiance, quand tu l'apprécies, c'est que tu t'y sens très en sécurité, en fait.
C'est ça, c'est une forme de... En fait, arriver dans un lieu, dans un groupe, dans un endroit où l'ambiance te convient, c'est accéder à une forme de presque de repos et de paix intérieure, si on va jusque-là, justement parce que le fait aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se conformer à une ambiance ou une autre, mais à l'inverse, s'y conformer, c'est aussi justement un moyen de... Enfin, c'est une nécessité parce que c'est un moyen justement de se sentir bien et d'accéder à une forme de paix intérieure, quoi. Et donc... C'est juste que peut-être parfois ces personnes n'arrivent pas à se conformer à l'ambiance de tel ou tel lieu parce que c'est pas l'ambiance qui leur convient. Voilà.
C'est ça, et ce qui est fort dans le groupe, c'est que c'est générateur d'une grande créativité et originalité. C'est qu'en fait, si tu te retrouves avec des gens un peu comme toi, mais qui partagent ton côté original, tes petites singularités, tu peux créer vraiment une ambiance à part, ensemble, et ça c'est beau.
C'est ça, et du coup il y a peut-être aussi des infinies possibilités d'ambiance en fait.
Ouais.
C'est ça qui est génial, ouais. C'est ça qui est génial avec la créativité. Mais du coup, c'est ce qu'on disait, il y a une dimension sociale. Et je voulais te demander, Maëlle, qu'est-ce que tu en penses de cette dimension sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc auquel on pourrait s'intéresser, en particulier dans la dimension sociale de l'ambiance, son rapport avec la société ?
Bah oui, je vais encore élargir l'échelle. Et là, je vais parler de la société en général et comment est-ce qu'elle évolue dans le temps historique pour parler de l'ambiance, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites par rapport à ça. Donc nous, on a parlé de groupes... Il y a deux secondes, on met en termes de groupe social à l'échelle de l'individu, quoi, famille, amis, etc. Là, on va vraiment parler de la société. Et d'abord, le latin societas, ça veut dire association d'individus. Donc il y a cette notion de collectif. Mais ça paraît assez logique. Je préfère quand même le préciser. Pour rappeler que la société, non, c'est pas juste une idéologie, c'est aussi un groupe de gens à la base. Et en fait, l'inscription de la société dans l'histoire... sa manière d'agir sur l'histoire dépend d'une conception de l'histoire qu'on peut avoir. Donc tu connais Hegel, Hegel il considère que l'esprit est le principe moteur, dynamique de l'histoire, et qu'en fait les gens ne seraient un peu que des pions dans tout ça, qui agissent, qui sont possédés par l'esprit. Là, je vulgarise, mais il faut, de toute façon.
C'est ce qu'on fait ici, de toute façon.
Donc, pour Hegel, l'individu est le pion de l'esprit et agit de telle ou telle manière. Et donc, il n'y a pas de libre arbitre du groupe. Il n'y a pas de force du groupe. Et nous, on va prendre le parti de la force du groupe. Parce que c'est beaucoup plus intéressant dans notre perspective pour parler de l'ambiance. Et nous, on pense dans ce podcast que le groupe peut agir de manière libre à grande échelle. Et donc, la question qui est présupposée ici, c'est est-ce que l'ambiance est constante ou pas ? Il paraît évident que non, à l'échelle historique, l'ambiance n'est pas la même aujourd'hui à Paris qu'à l'époque de l'Antiquité, sur l'île de la Cité, quand il y avait des Parisiens qui s'installaient. C'est pas du tout pareil. Donc ça paraît déjà évident du point de vue historique. Mais le point de vue historique peut apporter deux éléments. Le premier... du coup, pour parler de ce premier point, je vais évoquer un philosophe qu'on appelle Bruce Bégout et qui a écrit sur le concept d'ambiance. C'est le nom de son ouvrage. Et Bruce Bégout parle du fait qu'on est passé d'une cosmologie partagée, des croyances, des usages uniformes, donc à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à une société très fragmentée liée à la mondialisation et à l'époque moderne, quoi. Et que du coup, désormais, on n'a plus cette cosmologie partagée, mais on vit dans différentes ambiances. Et ils pensent qu'en fait, l'ambiance provient de cette fragmentation. Et que comme il n'y a plus d'usage unique, en quelque sorte, on a été obligé de former différents lieux pour différentes personnes, etc. Et qu'en fait, l'ambiance, les bulles aussi, comme on peut les appeler, apparaissent comme des phénomènes compensatoires de la perte d'harmonie cosmique. Je cite.
Waouh.
Sauf que nous ne sommes pas d'accord. Enfin, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça parce que c'est un peu naïf au sens où, comme s'il n'y avait pas de différence sociale à l'époque.
Il y en a toujours eu.
En fait, il y a toujours eu une fragmentation socio-spatiale dès l'Antiquité. Il y avait différents districts à Athènes, ils n'avaient pas tous la même fréquentation, même si il y avait des échanges entre les districts et que c'était très movible, très mouvant. Toujours est-il qu'il y a toujours eu différentes ambiances, notamment par rapport à la différence de classe sociale. Il y avait la cour et puis il y avait la taverne au Moyen-Âge. Et ça a toujours été le cas. Et c'est pas une question de cosmologie ou d'idéologie ou de philosophie. C'est social. Voilà, c'est mon avis. Donc, je soutiens, en tout cas, que la multiplicité des ambiances n'est pas liée à un changement de cadre de pensée, mais que c'est un fait invariable. C'est lié au fait invariable des groupes homogènes et singuliers qui constituent une société. Donc je ne sais pas, je ne soutiens pas qu'il y ait des différences sociales, attention. Je ne soutiens pas qu'il faut. Mais toujours est-il que ça a été le cas.
Et que c'est un fait.
Et que c'est un fait, en fait, qu'on observe depuis toujours.
C'est une observation purement sociologique, pour le coup.
Donc ne modifiez pas mes propos. Mais le point de vue de l'histoire peut nous apporter autre chose. Et on peut soutenir, par contre, que l'évolution de la société sur le temps historique peut jouer sur la qualité et l'intensité de l'ambiance. Mmh. Ça, c'est un truc que je soutiens. Pas sur la multiplicité, mais sur l'intensité des ambiances. Et là, on va parler de Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand du début du XXe. Et dans son œuvre, au titre très long, œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, il parle de l'impact du changement matériel historique, de la reproductibilité technique donc, sur l'aura des objets. C'était une longue phrase. Sur l'aura des objets, notamment artistiques, puisque du coup, cette reproductibilité technique fait que l'art ne fait plus vraiment événement comme avant. Et l'aura a changé. L'aura de la musique a changé. Avant, on écoutait une musique une fois dans sa vie. On allait au concert d'un tel, on allait se déplacer en Allemagne pour écouter Beethoven. Et c'était une fois, voire deux fois si on avait beaucoup de chance, sinon jamais. Donc les concerts, c'était des moments très cérémoniels, très ritualisés. Il y avait une vraie vénération de la musique qu'on perd aujourd'hui, parce que la musique, on peut l'écouter énormément. Mais c'est aussi bien. Enfin, on ne porte pas de jugement de bien ou de mauvais par rapport à ça. Parce que l'avantage des plateformes comme Spotify et Deezer, c'est qu'on a une culture musicale beaucoup plus étendue et que ça apporte beaucoup de créativité. Mais toujours est-il qu'il y a une différence parce qu'à l'époque, il y avait un mouvement cognitif de découverte quand on écoutait de la musique ou quand on voyait une œuvre d'art. Et aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement de reconnaissance. Quand on part voir un concert, on s'attend à reconnaître nos musiques préférées. Quand on va dans un musée en particulier, on s'attend à reconnaître une œuvre particulière, comme tous les touristes qui viennent à Paris voir la Joconde. Ils ne viendraient pas voir la Joconde sinon. Ils viendraient au Louvre, parce que le Louvre a une certaine réputation, et découvriraient la Joconde comme ça. Ils n'en auraient pas une image particulière préconçue. Parce qu'on ne peut jamais préconcevoir une œuvre d'art à partir de propos extérieurs.
Ouais, je pense que malgré la reproductibilité de ses œuvres, il y a toujours la conscience qu'il y a une seule œuvre.
Ah oui,
que malgré tout, il y a une forme de rareté et d'unicité dans l'art. Et donc, c'est pareil pour... les gens vont toujours voir des concerts, par exemple. Même si on écoute Spotify et qu'on écoute la musique en permanence, il y a toujours ce truc-là de ça fait événement, quoi. Voilà.
Et ça fait moins événement d'après Mais... Benjamin. Et Benjamin, déteste le cinéma, d'ailleurs.
Oui.
Parce que, une œuvre, c'est censé faire événement, c'est censé être très singulier. Et là, un film, ça se diffuse partout, donc il déteste le cinéma.
Oui, il me semble qu'il critique aussi beaucoup le fait que, justement, le cinéma, c'est perfectible à l'infini, qu'on peut couper les scènes, les refaire, qu'en fait, c'est un assemblage de plein d'images différentes, mais qu'il n'y a aucune... Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de jet créateur.
Voilà, il n'y a pas de contenu brut, en fait. Rien n'est brut dans le cinéma. Voilà.
C'est son point de vue.
C'est son point de vue.
Voilà, donc c'était mon opinion sur la manière dont la société évoluant peut façonner des ambiances. Et voilà.
Et donc, malgré tout, moi, je dirais, j'irais à l'encontre du coup de ce que dit Benjamin, et je dirais que les ambiances, elles sont toujours là pour ce qui est de l'art, etc. Il y a toujours une forme de... Ouais, si.
Ah ben enfin, oui, il y a une aura, mais elle a changé. Quoi. Aura. Mais nous, on peut peut-être pas tellement s'imaginer parce que on vivait pas à l'époque. On vivait un concert.
Après, je pense que par évidence, d'évidence, tout change en permanence, quoi.
Et, c'est ça.
Bien sûr qu'elle a changé, mais ça veut pas dire qu'elle s'est dégradée. Je pense que le point de vue de Benjamin, c'est que l'aura a été atteinte. Et
il y a une altération, quoi.
Ouais, voilà. Et j'en suis pas convaincue, en tout cas.
Moi, j'en suis convaincue.
Nous ne serons pas d'accord sur cette fin de podcast, Maëlle. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je crois que du coup, on peut conclure avec le fait que l'ambiance, comme tu l'as dit, elle n'est jamais permanente dans le temps. Dans un temps long, en tout cas. C'est-à-dire que, en effet, elle va changer d'une époque à une autre, d'une société à une autre, c'est impossible de... Enfin, il n'y a pas une ambiance de l'espèce humaine, quoi. Ça n'existe absolument pas et c'est pas possible. Par contre, c'est évident que l'ambiance, quand on la prend comme ambiance à un instant T, donc dans un lieu précis, dans une ville précise, à une époque précise.
Un moment précis de la vie.
Exactement. Et bien en fait, elle reste homogène et constante et c'est vraiment, vraiment sa caractéristique première, je pense. Parce que justement... elle est induite par un groupe de personnes et par une sorte d'harmonie entre ces personnes-là et d'harmonie entre ces personnes, ce groupe, et le lieu et l'environnement dans lequel elles sont, en fait.
C'est comme une présence immédiate, quoi, qu'on peut vraiment cerner qu'en la vivant.
Exactement.
Il y a une structure de l'ambiance qu'on ne peut saisir qu'à que maintenant, en fait. Là, dans le studio, il y a une ambiance aussi.
Exactement. Et en fait, c'est quelque chose de très immédiat, c'est ce que tu dis, qui se présente à nous et qu'on constitue. Mais qui, du coup, vraiment reste insaisissable et sera, je pense, pour toujours insaisissable. Et c'est peut-être ça qui va être un peu frustrant dans cette conclusion, c'est qu'en fait, c'est impossible de dire précisément ce qu'est une ambiance et il n'y a pas d'ambiance type. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ambiance que de groupes d'êtres humains et que d'êtres humains, en fait, presque. Et que de société et de... Voilà. Enfin, c'est ça qui est très intéressant aussi et très complexe dans cette notion. Mais en tout cas, ça reste, du coup, quelque chose d'homogène et de collectif. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir de ce concept-là, quoi. Et donc, qu'est-ce qui fait... On pourrait finir par répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise ambiance ? En réalité, je pense que c'est vraiment l'adéquation et l'harmonie. Le fait que les individus vont être sur la même longueur d'onde et l'harmonie qui peut exister entre ce groupe d'individus et le lieu dans lequel ils sont, en fait.
Donc la familiarité est hyper centrale.
Et donc, au-delà de la familiarité, en fait, on pourrait dire que du coup, la bonne ambiance, c'est vraiment quelque chose qu'on vit et qu'on construit. Tous
ensemble.
En gros, tous ensemble, voilà. Donc, participons à construire une bonne ambiance et ayons conscience aussi du fait, je pense, que du coup, oui, on a un rôle à jouer là-dedans et que il faut aussi être acteur dans la mesure où, quand on se dit « Ah, c'est une mauvaise ambiance », etc., il faut aussi avoir conscience que c'est parce qu'on adopte une posture qui nous extrait du moment dans lequel on est et on prend du recul en se disant « C'est une mauvaise ambiance », du coup, on se met comme, pas dans une position de victime, mais voilà, on subit ce truc-là alors qu'en vrai, on pourrait
Oui, c'est une position très très passive en fait.
Exactement.
Et je pense qu'avoir conscience du fait qu'en fait l'ambiance elle se construit tous ensemble, ça permet de relativiser quand on est dans un lieu où on se sent pas vraiment bien quoi.
Exactement.
C'est juste que c'est pas de notre faute, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation.
Exactement.
C'est pas grave, mais autant partir quoi.
Soit partir, soit trouver un moyen de s'insérer dans l'ambiance d'une manière différente quoi, et trouver sa place aussi. C'est vraiment une question de trouver sa place dans cette ambiance.
Tu ressens pas parfois une impossibilité à trouver sa place avec des gens qui te correspondent pas du tout parce
que complètement,
on n'est pas tous compatibles quoi.
Complètement. Donc c'est à relativiser finalement.
Vous venez d'écouter Radio Pium diffusé un dimanche sur quatre sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Au micro, c'était Maëlle Bouvray, Marianne Varem et Tibor Decha à la réalisation. L'émission est produite par Radio Campus Paris et vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités reliées à Radio Pium sur le compte Instagram d'Opium Philosophie. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer ou autres. Et si vous avez des questions et des réactions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse opium.radiopium@gmail.com. C'était Radio Pium et merci de nous avoir écoutés. À dans un mois.